journal est présenté par Claire Flochel.
Bonjour à tous. En Iran, situation toujours très tendue. Troisième journée et troisième nuit de violence. Deux manifestants ont été tués dans des affrontements. On rejoindra notre envoyé spécial à Téhéran, Siavosh Ghazi, au début de ce journal. L'échec des négociations pour former un gouvernement en Allemagne, la crise en Espagne, le Brexit. L'année 2018 s'annonce décisive pour l'Union européenne. C'est ce que nous allons voir avec Johanna Hochstein, notre correspondante à Bruxelles. En France, quelle forme prendront les vœux d'Emmanuel Macron ce soir? Faut-il s'attendre à des surprises ou des vœux traditionnels? On pose la question à Olivier Hill, historien des rites politiques. Et puis à 12h40, notre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. En Iran, la protestation contre la vie chère, la hausse du chômage et le pouvoir s'est étendue hier à plusieurs villes du pays, dont Dohroud à l'ouest, où il y a eu deux morts lors d'affrontements. Si l'avocate et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi pressent un mouvement qui pourrait prendre plus d'ampleur que celui de 2009, les autorités iraniennes, elles, essaient de le circonscrire, voire de le réprimer. Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran.
Ceux qui détruisent les biens publics, créent du désordre et agissent dans l'illégalité doivent répondre de leurs actes et vont payer le prix. Nous agirons contre les violences, a averti le ministre iranien de l'Intérieur, Abdulreza Rahmani Fazli, à la télévision d'État. Dans les affrontements qui ont eu lieu, deux personnes ont été tuées dans la ville de Dohroud, située dans l'ouest du pays, mais le vice-gouverneur de la province a affirmé que les forces de l'ordre et sécuritaires n'avaient pas tiré sur les manifestants. Ailleurs, dans la ville d'Arak, située dans le centre, 80 personnes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient d'attaquer des bâtiments publics, notamment la préfecture. Selon des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, des manifestations ont également eu lieu dans de nombreuses villes du pays. L'Internet sur les réseaux de téléphonie mobile a été coupé samedi soir pendant quelques heures avant d'être rétabli dans la nuit. Le président Hassan Rouhani, qui a été réélu triomphalement en mai dernier avec la promesse d'une amélioration de la situation économique et plus de liberté sociale et culturelle, n'a pas encore réagi face au mouvement de protestation sans précédent depuis 2009.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran pour France Culture. Une fin d'année tendue également à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les catholiques congolais appellent à une marche pacifique pour réclamer le départ du président Joseph Kabila. Marche interdite par les autorités. Deux hommes ce midi ont été abattus par les forces de sécurité à Kinshasa dans des manifestations. La police a également dispersé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène et interpellé 12 enfants de cœur, David Ravier.
Ce matin, policiers et militaires ont fait irruption dans au moins 3 des principales églises de la capitale pour disperser les fidèles avec du gaz lacrymogène. Le but étant de faire rentrer chez eux et de décourager ceux qui tenteraient de s'aventurer dans les rues. Cette marche organisée par le comité laïque de coordination devait partir ce midi des 150 églises que compte Kinshasa. Bible à la main, les fidèles étaient invités à défiler pour demander à Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, de ne pas modifier la constitution pour qu'il ne puisse pas briguer un troisième mandat. Le gouverneur de Kinshasa a décidé d'interdire cette marche pacifique, officiellement faute de policiers pour l'encadrer en toute sécurité. Le rassemblement de plus de 5 personnes dans la capitale sont également prohibés et les communications par message et accès à Internet ont été coupées dans tout le pays par les opérateurs télécoms à la demande des autorités. Le déroulement de cette journée sous haute pression est donc suivi de très près par la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui n'a cessé de rappeler ces derniers jours au régime de Kinshasa de respecter la volonté des habitants de manifester. Pour le comité laïque de coordination, cette marche était avant tout un symbole puisqu'elle devait se dérouler un an jour pour jour après la signature d'un accord entre la majorité et l'opposition en vue d'une élection présidentielle qui devait se dérouler ce mois-ci.
Précision signée David Ravier. Merci David. En Turquie, la police antiterroriste locale affirme aujourd'hui avoir arrêté à Istanbul 20 membres du groupe État islamique, dont 15 ressortissants étrangers. Les suspects sont accusés d'avoir planifié un attentat lors du réveillon de ce soir, un an après une attaque dans une boîte de nuit de la ville qui avait fait 39 morts. Jeudi et vendredi, 195 autres personnes avaient déjà été arrêtées, toutes accusées d'être des membres du groupe terroriste. Jetons un œil sur l'Europe à présent et ses nombreuses crises. Trois des grands pays européens traversent une crise politique. L'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Il y a aussi le Royaume-Uni qui s'apprête à sortir de l'Union européenne. Alors faut-il en conclure que l'Europe est en panne? On pose la question à Johanna Hochstein à Bruxelles.
Même si personne ne l'a avoué officiellement, l'échec des négociations en Allemagne il y a un mois a quelque peu inquiété à Bruxelles. Toujours pas de gouvernement côté allemand. Le projet de relance de l'Europe voulu par Emmanuel Macron a donc forcément du plomb dans l'aile. À Paris et à Berlin, on se veut malgré tout rassurant. On promet une initiative franco-allemande sur l'union économique et monétaire pour le mois de mars. Seulement, au mois de mars, il y aura des élections en Italie, avec peut-être une percée du mouvement 5 étoiles. Les Européens ont aussi les yeux rivés sur la crise en Espagne. Et puis, il y a la sortie du Royaume-Uni de l'UE qui sera bientôt une réalité. L'année 2018 sera-t-elle alors une année noire pour l'Europe ? Non, insiste-t-on ici, malgré les échéances électorales en Allemagne et en France cette année, malgré le Brexit, malgré la crise catalane, l'UE a tout de même fait avancer quelques dossiers importants en 2017. Défense européenne, union économique et monétaire et Europe sociale par exemple.
Johanna Hochstein, correspondante de France Culture à Bruxelles. Ce seront ses premiers vœux aux Français en tant que président de la République. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à partir de 20h, comme le veut la tradition depuis les débuts de la télévision et de la 5e République. Mais si on ne sait rien pour l'instant de la forme que prendra cette allocution, l'exercice est rarement synonyme de surprise ou d'annonce fracassante. Le fond est souvent convenu, mais ça reste un incontournable de la communication présidentielle, nous explique Olivier Hill, historien des rites politiques à Sciences Po Grenoble.
Alors c'est un moment particulièrement solennel. Depuis 1959 et le général de Gaulle qui a inventé l'exercice, tous les présidents s'y sont soumis. C'est l'occasion pour eux d'abord de montrer la grandeur de l'État, leur fidélité à une tradition, et puis aussi sur un plan plus directement politique, c'est le moyen de rappeler la cohérence de l'action gouvernementale des axes sur lesquels se structure leur politique, et puis aussi une façon d'engager l'avenir sous un jour particulier qu'ils ont à cœur à ce moment-là de présenter sous un jour évidemment favorable. C'est donc un moment important, c'est un moment aussi, il faut bien le dire, habituel, hein, on parle de rituel monarchique et républicain, un moment au cours duquel, au fond, il s'adresse à l'ensemble de la nation et fait valoir ce qui est sa signature personnelle, sa manière spécifique d'habiter l'institution présidentielle.
Oui, justement, on connaît un petit peu maintenant le style d'Emmanuel Macron dans son exercice du pouvoir ou sa communication. Alors ce soir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ?
Alors on peut s'attendre à un équilibre entre rupture et tradition, c'est-à-dire le souci qu'il a déjà manifesté lors de précédents rituels républicains, d'imprimer sa marque, de montrer sa spécificité. Et là, ça peut par exemple prendre la forme, comme l'avait fait d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing en son temps, inviter la première dame, celle à laquelle d'ailleurs il a fait promesse de consacrer une part spécifique au sein des institutions, d'être présente à ses côtés ou d'être entourée de certains signes qui donnent à voir son dynamisme, son souci de rompre avec les habitudes, ou certaines habitudes en tout cas. Et puis de l'autre, il faudra aussi rassurer, montrer qu'il est bel et bien dans un sillage qui est celui de la restauration d'un certain état d'esprit de la Ve République, il y est attaché. Donc on le voit, ça va être un exercice tout en nuances, tout en subtilité, que les Français vont suivre. On parle en général d'une dizaine, douzaine de millions de téléspectateurs, vont suivre avec attention.
Olivier Hill, historien des rites politiques à Sciences Po Grenoble avec Eva Jednak. Les vœux du président seront donc retransmis ce soir à 20h sur les radios, les télés et sur Internet. Une fausse alerte cette nuit à Aix-les-Bains, en Savoie. 16 bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans une voiture garée près d'une église, mais elles étaient vides. Des démineurs sont venus de Lyon par sécurité. La voiture, elle a été transportée au commissariat où son propriétaire est prié de venir la chercher. La promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur vient d'être publiée. 336 personnes sont honorées aujourd'hui. Autant de femmes que d'hommes, comme c'est le cas depuis 10 ans. Parmi les promus, on peut citer Véronique Colucci, administratrice des Restos du Cœur, qui devient officier de la Légion d'honneur. Les romancières Catherine Clément et Marie-Aude Muraille, ou l'ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron. Midi 39 sur France Culture, la face cachée du globe, c'est avec vous Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Claire. Démission surprise du gouvernement malien vendredi. Un ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Boubey Maïga, est devenu hier le 5e Premier ministre nommé par le président Keïta depuis août 2013. Ce remaniement serait lié à la campagne électorale pour la présidentielle de 2018 et à une volonté de mieux maîtriser la situation dans le nord du pays où des attaques djihadistes sont toujours signalées. L'année finit comme elle a commencé au Yémen. 106 personnes ont été tuées lors de raids aériens ces 10 derniers jours. Une des attaques de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre un marché de Taïz aurait fait 56 morts selon l'ONU. Le gouvernement légitime évoque lui 35 morts et 25 blessés. Un fait rare dans le sultanat d'Oman, un homme armé d'un couteau a tué samedi un policier dans un centre commercial de la capitale Mascate. Les services de sécurité omanais affirment que l'agresseur était un handicapé mental. La baie de Piran n'est pas qu'un paysage de cartes postales en mer Adriatique. C'est également un tout petit territoire que se disputent deux ex-républiques yougoslaves, la Slovénie et la Croatie. Un arbitrage international en attribue la souveraineté à la Slovénie. Elle l'exerce officiellement depuis hier, même si Laurent Rouy, des bateaux croates, continue d'ignorer ce nouveau statut.
Pas d'incident majeur, mais un incident tout de même au premier jour d'exercice de la souveraineté slovène sur les eaux de la baie de Piran à la frontière avec la Croatie. Trois bateaux de pêche croates sont entrés brièvement dans les eaux slovènes avec des bateaux de la police croate. Ljubljana a protesté auprès de Zagreb, pas tant pour les pêcheurs que pour les bateaux de police. La minuscule baie de Piran, dans le nord de l'Adriatique, est l'objet d'un contentieux vieux de 25 ans. Né avec l'éclatement de la Yougoslavie. Les eaux sont partagées suivant une règle internationale qui dépend de la position de la frontière terrestre. Or, les deux pays ne sont jamais tombés d'accord sur une étroite bande de terre, mais qui a une influence importante sur la frontière maritime. Selon les Croates, si du pétrole est trouvé dans l'Adriatique, les Slovènes pourraient, grâce à une frontière avantageusement tracée, réclamer leur part. Il y a 2 ans, un arbitrage international avait donné la bande de terre aux Croates, mais 2/3 des eaux aux Slovènes. Zagreb avait accusé la Slovénie d'avoir corrompu les juges et s'était retiré de l'arbitrage. Les Slovènes avaient rétorqué par des contrôles aux frontières, créant de gigantesques bouchons en pleine saison touristique. Difficile de savoir, à l'heure actuelle, si la Croatie va finir par accepter l'arbitrage international.
Madagascar, une des terres de la diversité du globe, compte 116 espèces de lémuriens. Malheureusement, 80% d'entre elles sont menacées. Sur place, des organismes, des chercheurs multiplient leurs efforts pour la sauvegarde de ces petits mammifères. C'est un reportage de Laure Verneau.
Au cœur de la forêt du parc d'Yveloun, sur la côte est de Madagascar, il y a 12 espèces de lémuriens différentes. Le professeur Jonah Ratsimbazaf mène la visite. C'est le président du GERP, le groupement d'études et de recherche sur les primates, une association très active sur l'île.
Le lémurien que nous voyons ici, c'est le lémurien, le vari blanc, le nom scientifique Varicia variegata.
La bête ne pèse pas plus de 4 kilos. On la reconnaît grâce à son épais collier de barbe blanche. Grâce à la semi-captivité, les zoologistes reconstituent leur population décimée pour qu'ils puissent un jour regagner leur habitat naturel, la forêt primaire.
Leur habitat disparaît très vite. Une fois que tous les lémuriens vivent dans la forêt, et comme le varicia, ils sont le plus chassés parmi les espèces parce que cette espèce est très très jolie. Les hôtels, les gens préfèrent les garder en captivité pour montrer à leurs touristes, à leurs clients. Mais ce n'est pas la bonne idée parce que il faut qu'ils vivent dans leur habitat naturel parce qu'une fois en captivité, ils ne peuvent plus choisir leur nourriture, ils ne peuvent plus choisir avec qui il ou elle veut vivre. Donc ça va vraiment accroître leur menace.
En plus du braconnage, d'autres facteurs expliquent pourquoi les lémuriens sont en voie de disparition. La déforestation à cause de l'exploitation de bois précieux, mais aussi la culture sur brûlis. Il s'agit d'une tradition ancestrale qui permet de fertiliser un champ. C'est pourquoi les chercheurs de l'île ont décidé d'unir leurs forces cette année. Ils vont créer une base de données internationale sur ce petit mammifère, une première, selon le primatologue Miaza Eustache, de l'université de Tamatave.
Très souvent, les données sont un peu disparates, donc il faut savoir que sur les lémuriens en particulier, on est en train de monter avec le GERP, un grand réseau, non seulement national, mais international, dans lequel il va falloir mettre le maximum de données actualisées de manière à sauvegarder ces richesses qui sont des patrimoines internationaux et donc très très importants.
Les scientifiques estiment que si rien n'est fait, les lémuriens pourraient être amenés à disparaître d'ici les 20 prochaines années.
Taïwan a été obligé de retirer 200 000 passeports pour erreur d'illustration. Sur ces documents de voyage figurait une image de l'aéroport de Washington à la place du principal aéroport de l'île. Deux responsables des affaires consulaires ont démissionné. Des internautes se sont emparés de cette bourde et lancent avec ironie « Taïwan est le 51e État des États-Unis », allusion à la délicate situation politique de l'île dont Washington est le principal allié et fournisseur d'armement aux grandes dames de Pékin. Bonne fête et à l'année prochaine.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo aujourd'hui, un temps doux mais perturbé, des pluies cet après-midi du Poitou aux Ardennes, ciel bleu dans le sud, en soirée de la neige sur le relief des Pyrénées à partir de 1300 mètres, du vent sur le littoral atlantique, des côtes vendéennes au Finistère et sur le littoral de la Manche. Les températures sont comprises entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord et 13 à 17 degrés sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Nicolas Slimani.